autour de la question.
D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs et auditrices, avec Hugo Violas à la réalisation, pour remonter le temps aujourd'hui sur les traces ADN de nos ancêtres. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises, car c'est une vraie révolution paléogénomique qui est en marche et nous révèle une humanité toujours plus buissonnante, toujours plus métissée, un véritable melting pot dont nous avons gardé les traces. Mais comment ? À partir d'un minuscule fragment de phalange ou d'un morceau de dent, en faisant parler cet ADN ancien, les paléogénéticiens parviennent-ils à reconstituer cette foisonnante préhistoire de notre, de nos humanités ? Et quelles traces subsistent en nous de tous ces autres humains et de tous ces métissages ? Autant de questions réouvertes par les inspirantes découvertes de nos invités, la paléogénéticienne Eva Maria Gegel, qui dirige le laboratoire de haut confinement pour l'ADN ancien à l'Institut Jacques Monod, et le paléoanthropologue Jean-Jacques Hublin, professeur au Collège de France et directeur du département Évolution de l'Homme de l'Institut Max Planck de Leipzig. Autour de la question « Quelle nouvelle de notre préhistoire et comment la lire dans nos génomes ?» Première piste de réponse du pionnier de la paléogénétique, le célèbre professeur Svante Paabo, décodeur du génome de Néandertal et de Denisova.
Pour résumer, qu'avons-nous appris en étudiant les génomes des humains d'aujourd'hui et des humains disparus ? Nous apprenons peut-être plusieurs choses. Mais je pense qu'il est important de souligner que la leçon est que nous nous sommes toujours mélangés. Nous nous sommes mélangés avec ces premières formes d'humains, peu importe où nous nous sommes rencontrés et où nous nous sommes mélangés depuis.
Le mélange, donc signature de notre humanité depuis les origines et jusqu'à aujourd'hui, puisque nous avons gardé la trace en nous, dans notre ADN, de quelques-uns, voire de tous ces métissages. Voilà ce que nous allons découvrir avec vous. Eva Maria Gegel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct, en présentiel, comme on dit aujourd'hui, en vrai, avec nous, pour partager vos dernières découvertes avec votre équipe de paléogénéticiens de l'Institut Jacques Monod, CNRS, Université de Paris. Vous avez démontré, Eva Maria, c'est une première, que la France a connu deux vagues d'immigration pendant la préhistoire qui ont tout changé. La première, je vais le dire très grossièrement, venue d'Anatolie il y a 7000 ans, apportant l'agriculture. La deuxième, il y a environ 4000 ans, quand des éleveurs nomades des steppes, les Yann Mayas, sont déferlés à cheval sur l'Europe, ouvrant l'âge du bronze. Deux vagues de migration dont nous avons conservé la trace dans nos génomes. Eva Maria Gegel, nous sommes un peu le produit de ces métissages-là, pour ce qui est de l'Europe et de la France en particulier ?
Nous sommes le produit de plein de métissages. On va encore remonter dans le temps au cours de cette séance. Et les derniers grands métissages, je dirais, c'était l'arrivée des agriculteurs néolithiques à partir de l'Anatolie, qui ont colonisé l'Europe et qui se sont métissés avec les mésolithiques, donc les chasseurs-cueilleurs mésolithiques qui étaient autochtones partout en Europe. Et au début, à la fin du néolithique, avec l'arrivée de l'âge du bronze, sont arrivés ces peuples de steppe, ces nomades dont l'économie s'est basée sur les bœufs et qui ont probablement aussi domestiqué le cheval, qui ont inventé la roue probablement, et qui maîtrisaient la métallurgie, qui sont arrivés d'une manière ou d'une autre, je ne rentre pas là dans la polémique, en Europe et en Europe centrale. Ils venaient des steppes pontiques, c'est-à-dire Ukraine actuelle, et qui se sont mélangés, voire qui ont remplacé une partie du génome néolithique en Europe centrale, beaucoup en Angleterre et beaucoup moins sur la péninsule ibérique. Et c'était pas encore connu qu'est-ce qui s'est passé en France. Et nous, on a montré que la même chose s'est passée aussi en France. Donc avant, il y avait ces agriculteurs néolithiques d'origine anatolienne qui sont arrivés, qui n'ont pas tout de suite remplacé les mésolithiques, mais chasseurs-cueilleurs mésolithiques, mais qui se sont métissés. Mais à la fin du néolithique, ils ont donc dû rencontrer directement ces pasteur nomade, peut-être guerrier, cavalier, qui venait des steppes.
Peut-être féroce, il y a polémique
là-dessus. Peut-être féroce, et qui, en tout cas, ils avaient l'épée. C'était une invention, quand même, la première invention d'une arme uniquement ciblée à tuer des êtres humains, des hommes surtout, et qui ont donc remplacé une partie du génome. Donc, quand je dis ça, ça veut dire on analyse des squelettes dans des sites archéologiques. On n'analyse jamais une population entière. On analyse des individus qui sont enterrés dans des cimetières, des nécropoles ou dans des villages, qui représentent donc une partie de la population. On essaie, parfois on essaie, grâce aux attributs archéologiques, au contexte archéologique, on sait à quelle couche de la population ces individus ont appartenu, c'est-à-dire dans une société supposée hiérarchique ou pas, mais on n'a pas toujours toute la population. Donc quand je parle, quand j'ai dit il y avait remplacement du génome à cette époque-là, il faut toujours relativiser, c'est-à-dire dans ces individus qu'on a analysés. Maintenant, on sait quand même que c'était assez profond. Parce que la composition du génome des individus à l'âge de fer et les siècles qui ont suivi, voire millénaires, n'a pas énormément changé, sauf qu'on a à nouveau vu le génome des agriculteurs néolithiques réapparaître dans les génomes. Mais ce qu'on a surtout vu, c'est que le chromosome Y, qui a une signature spécifique chez ces peuplades des steppes, a été vraiment introduit en masse et qui est resté. Aujourd'hui encore, les Européens, les hommes européens, sont majoritairement porteurs de ce chromosome Y d'origine des steppes. Et donc ça nous montre quand même que ces, disons, cavaliers des steppes, hein, pour faire ça un peu
cavaliers, justement.
Cavaliers un peu sexy, donc qui sont arrivés, ils se sont comme imposés. Ils avaient un, je dirais, maintenant j'emprunte une terminologie vraiment biologique, ils ont eu un taux reproducteur qui était supérieur à celui des agriculteurs néolithiques.
Est-ce que c'est parce qu'ils les ont tués? On ne sait pas. Ça fait partie de la polémique. On voit bien.
C'est une grosse polémique. Une grosse et là, polémique, il faut vraiment faire attention
à
ce qu'on dit. Parce que là, de partir, là, pour dire ce qu'on a vu dans la presse, dire oui, ils ont réduit en esclavage tous les agriculteurs néolithiques, on ne voit pas ça dans les génomes.
Hein.
Ça, ce sont des déductions, à nouveau, sexy, qui sont...
Il ne faut pas aller trop vite. Hein.
Oui,
on voit, Eva-Maria Gagnon,
oui,
que vous êtes très prudente en tant que généticienne. Pour ce qui est d'une histoire donc plus proche de nous, on va en venir maintenant avec le professeur Jean-Jacques Hublin à une histoire beaucoup plus lointaine. Et là encore, grande prudence, parce qu'à la découverte, on trouve autre chose et c'est une reconstitution. Donc le professeur Jean-Jacques Hublin du Collège de France et de l'Institut Max Planck, qui est avec nous par téléphone depuis Leipzig. Bonjour Jean-Jacques Hublin.
Bonjour.
Merci à vous également d'être en direct par téléphone avec nous depuis Leipzig en Allemagne, donc où vous avez créé, où vous dirigez le département d'évolution humaine de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire de Leipzig. Vous venez donc, Jacques Hublin, vous avec vos équipes, de faire une nouvelle découverte de taille. On est vraiment dans une autre échelle de temps. Hein. C'est celle du premier ou en tout cas du plus ancien Homo sapiens, découvert à ce jour à partir d'une dent, de quelques fragments d'os, découvert dans une grotte de Bulgarie que vous avez pu dater entre 45 000 à 46 000 ans, c'est-à-dire que l'homme moderne, Homo sapiens, serait arrivé bien plus tôt qu'on ne le croyait en Europe, et donc que sa cohabitation, voire son métissage, si je ne vais pas trop loin avec Néandertal, aurait duré bien plus longtemps qu'on ne le pensait. C'est un peu ça qu'on peut dire, Jean-Jacques Hublin.
Oui, tout à fait, oui. Alors, il faut quand même bien dire que ça n'est pas le premier Homo sapiens, c'est le premier Homo sapiens en Europe. Mmh. L'espèce a une histoire beaucoup plus longue et nous avons publié en 2017 des Homo sapiens en Afrique du Nord qui avaient 300 000 ans. Hein. Donc c'est une longue histoire africaine avec des sorties d'Afrique successives surtout au Proche-Orient et puis en direction de l'Asie méridionale. Et en fait, ce qui est assez intéressant et énigmatique, c'est que cette expansion des Homo sapiens, eh bien, dans le fond, elle a été beaucoup plus lente, en tout cas, elle a marqué le pas en direction des latitudes moyennes de l'Europe, de l'Eurasie, puisque en gros c'est seulement à partir de, disons, 50 000 ans qu'on sent un frémissement et que ces hommes vont commencer à apparaître plus au nord, en particulier en Europe. Alors cette arrivée en Europe, c'est quelque chose qui a été très longuement débattu par les préhistoriens, par les paléoanthropologues, avec des dates autour de 40 000, 41 000, 42 000. Alors c'est vrai que avec ce 47 000 en Bulgarie, là tout d'un coup on plonge beaucoup plus loin dans le temps. Et en fait, ce qu'on a montré à travers ce site et son étude, c'est que avant la vague principale de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur qui arrive en Europe et qui remplace véritablement les Néandertaliens, eh bien, il y a déjà eu une vague plus ancienne, pionnière en quelque sorte, limitée dans son extension géographique, parce qu'elle n'arrive pas jusqu'en Europe occidentale, et qui, dans le fond, je serais tenté de dire, est une forme de demi-échec. Puisque ces gens-là n'ont aucun descendant dans les populations européennes actuelles. Ils semblent se dissoudre un petit peu. Et ce que nous montre aussi l'existence de cette première vague, c'est que dans le fond, le remplacement des Néandertaliens, ça n'a pas été si facile que cela, si je peux dire.
Il y a eu plusieurs vagues.
Il y a eu un long processus qui a duré peut-être 7 ou 8 000 ans et qui couvre une période de temps entre l'arrivée de cette première vague pionnière en Europe de l'Est et puis la disparition des tout derniers Néandertaliens dans le Far West de l'Europe, en France ou en Belgique, il y a 40 000 ans, 39 000 ans. Et on se rend compte que ce processus, c'est un processus qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on a imaginé jusqu'à présent, avec 7000 ans, c'est beaucoup de temps pour avoir toutes sortes d'interactions entre ces groupes qui ne coexistaient pas localement, probablement, mais qui avaient forcément des contacts dans des zones, frontières. Et ces interactions, ça couvre tout ce qu'on peut imaginer, des interactions plus ou moins, agressives, mais aussi des échanges d'individus. On sait qu'il y a eu de l'hybridation, et puis aussi des échanges de techniques, de comportements. Ce qu'on voit, les derniers Néandertaliens en Europe, faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant, et qui ressemble drôlement à ce que ces premiers Homo sapiens apportent en Europe de l'Est.
C'est une histoire finalement, plus riche. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on remonte plus loin, avec plus de branches, qui une préhistoire plutôt de l'humanité, des humanités, qui est quand même mise au jour aussi beaucoup grâce aux nouvelles techniques et grâce à la paléogénétique, qui permet d'aborder et de découvrir même de nouvelles espèces. Enfin, on va beaucoup plus loin, on remonte plus loin, et ça se complexifie grâce à la génétique par rapport aux fouilles. Eva-Maria Gegel.
Oui. Certainement. Par exemple, ce qu'a raconté Jean-Jacques Hublin là, ce qu'on a trouvé chez les Néandertaliens, c'est une nouvelle publication qui n'est même pas encore publiée, qu'ils se sont métissés déjà beaucoup plus tôt, apparemment, avec les Néandertaliens, avec des premières ou deuxièmes, en tout cas, des vagues antérieures de sapiens, qui ont laissé leurs traces dans leur ADN mitochondrial et chromosome Y, qu'ils auraient remplacé. Et donc, les derniers néandertaliens qu'on analyse, comme ceux de El Cidron ou Spi en Belgique ou dans les Caucases, porteraient déjà la signature de sapiens.
Sapiens, pas mal de sapiens, on va le rappeler, on va y revenir, tout ce petit monde, toute notre humanité est sorti d'Afrique en plusieurs fois, il est resté, il est re-rentré, il y a eu des allers-retours, hein, tout vient d'Afrique. Mais là, on s'intéresse à nos préhistoires européennes, et grâce notamment à cette lecture de l'ADN ancien qui a permis de découvrir notamment une nouvelle espèce humaine, j'ai envie de dire en tout cas une nouvelle branche, jusqu'alors inconnue. C'est la branche Denisovienne, hein, l'homme de Denisova, sur lequel vous avez travaillé, Eva-Maria Gegel et Jean-Jacques Hublin. Tout ça grâce à un minuscule bout de phalange exhumé dans une grotte de Denisova, dans les monts Altaï, en Sibérie, analysé par le professeur Svante Pebo, que l'on a entendu en début de cette émission, que je propose de retrouver pour l'écouter raconter cet exploit, si j'ose dire, de la paléogénétique.
Tout d'abord,
ça a été une des plus grandes surprises que j'ai connues dans ma carrière, cette découverte. Il s'agissait d'un minuscule bout d'os, la dernière phalange du petit doigt d'un auriculaire, et on était convaincu que ce serait soit un néandertalien, soit un homme moderne. Et quand on a séquencé son ADN, on s'est aperçu que ce n'était ni l'un ni l'autre, mais qu'il s'agissait d'un cousin lointain, éloigné des néandertaliens, qui avaient dû se séparer 400 000 ans auparavant. Ce serait donc comme un cousin, là encore, ou un parent très éloigné. Et il se trouve qu'on retrouve aussi leur patrimoine génétique en Asie, notamment aussi dans les populations du Pacifique. Donc, si vous avez vos racines en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou en Australie, eh bien, 5% de votre ADN provient des Denisoviens.
Et tout ça à partir d'un quoi, d'un fragment de phalange de l'auriculaire, c'est ça? Comment on travaille là-dessus?
En fait, si l'on arrive à séquencer en détail un génome, on ne trouve pas qu'un seul génome dans un individu, mais deux. Il y a celui qu'il a hérité de sa mère et celui qu'il a hérité de son père. Par conséquent, vous avez un échantillon de deux génomes sur cette population. Par conséquent, vous pouvez leur faire dire quelque chose sur les variations génétiques au sein de cette population et donc l'histoire génétique de cette population.
Est-ce que vous pensez, Svante Pebo, que vous pourriez tomber comme ça sur d'autres petits fragments d'os et arriver à déchiffrer d'autres génomes? Enfin, qu'on en est qu'au début de cette recherche paléogénétique de nos origines?
Si
vous m'aviez posé la question il y a 5 ans, je vous aurais dit non, on sait l'essentiel de ce qu'on peut savoir. Mais depuis la découverte des Denisoviens, mon esprit s'est ouvert à la possibilité que l'on puisse trouver d'autres espèces archaïques à l'avenir. La Chine est un territoire passionnant à explorer et on va sûrement au cours des fouilles faire d'autres découvertes.
Faire d'autres découvertes comme celle de cette Denisovienne, parce que vous m'avez corrigé, Eva-Maria Gegel, et vous avez entièrement raison. On a tendance à dire l'homme de Denisova. Non, il y a une petite phalange qui a été trouvée, et c'est une femme de Denisova qu'on a trouvée. Est-ce que vous pensez, comme le disait Svante Pebo, qu'on pourrait faire d'autres découvertes de ce type?
Certainement. Moi, je suis ouverte à toute possibilité. Déjà, on sait qu'il y a des métissages avec des populations qu'on appelle, dans notre langage, des populations fantômes. Donc, on voit dans le génome des traces d'autres populations, mais on ne sait pas encore à quoi elles correspondent parce qu'on n'a pas encore les références. Peut-être des populations Homo erectus, mais on n'est pas sûr. Donc, il y aura encore des grandes surprises, là, je suis sûre, oui.
Jean-Jacques Hublin, vous pensez que les surprises, elles viendraient de fouilles, de revenir sur des chantiers de fouilles, de collections qu'il faudrait revisiter à la lumière des nouvelles techniques et notamment de l'ADN ancien, ou est-ce qu'elles viendront de nouvelles découvertes, justement? Où pensez-vous que viendront les prochaines surprises?
Bien, les deux, hein, c'est-à-dire que les efforts de terrain, évidemment, sont absolument nécessaires, parce que c'est comme ça qu'on trouve de nouveaux fossiles, de nouveaux sites, qu'on peut les dater, qu'on peut les étudier. Et puis, évidemment, on peut appliquer les méthodes que l'on découvre au fil des générations à des découvertes qui ont été faites parfois un siècle auparavant. Hein, et c'est ce à quoi s'emploient les paléoanthropologues et les paléogénéticiens. Alors, je voudrais revenir sur cette idée qu'on peut découvrir des groupes nouveaux. Mmh. Il faut bien voir qu'en Asie en particulier, et en Chine notamment, on a beaucoup de fossiles, dans le fond, dont on ne sait pas trop quoi faire, et qui, de mon point de vue, n'ont pas été interprétés correctement, parce que, dans le fond, on a essayé de tracer une ligne évolutive locale, hein, traversant les âges et arrivant jusqu'aux Chinois actuels. Bon, on se rend compte maintenant que c'est beaucoup plus compliqué avec des remplacements d'espèces et avec au passage des mélanges dont on a parlé. Je pense qu'il y a beaucoup de travail dans la réinterprétation de fossiles qu'on connaît déjà. Alors, des limitations de l'ADN ancien, c'est que surtout dans les zones tropicales, dans les régions chaudes, eh bien cet ADN il se dégrade quand même assez rapidement. Et donc il faut bien comprendre que l'évolution humaine, ça dure des millions d'années. Et que ce que l'on documente avec la paléogénétique, c'est surtout, j'allais dire, la fin de cette histoire. Et que quand on remonte dans le temps, eh bien, on ne dispose plus d'ADN fossile. Et singulièrement, dans les régions tropicales, en Afrique par exemple, qui sont en fait le cœur de notre évolution. C'est-à-dire qu'on connaît beaucoup de choses sur la périphérie, on connaît beaucoup de choses sur les Néandertaliens, les Denisoviens, des groupes qui vivaient un petit peu en marge du monde des hominines. Dans le fond, ce qu'on aimerait savoir, c'est ce qui se passe, par exemple, en Afrique, il y a un demi-million d'années ou avant. Et ça, pour l'instant, il y a très peu d'espoir que ce soit la paléogénétique qui réponde à cette question-là.
Parce que l'ADN ne se conserve pas.
Bien sûr, c'est ça. En Afrique, l'ADN le plus ancien qu'on a, il a à peu près 20 000 ans. Et on est déjà très très content de l'avoir. Ça vient d'un site marocain qui est à 1000 mètres, presque 1000 mètres d'altitude. La température, c'est l'ennemi de l'ADN fossile, si je peux dire. Alors, il y a d'autres méthodes moléculaires qui sont en train d'émerger. En particulier, les gens s'intéressent, et ici dans notre laboratoire, on a travaillé là-dessus. Les protéines, évidemment, donne beaucoup moins d'informations que l'ADN, mais en tout cas, on peut faire des phylogénies moléculaires avec des protéines fossiles. Et certaines de ces protéines ont probablement un temps de survie qui est au moins 10 fois celui de l'ADN. Donc on va aller de plus en plus dans cette direction-là.
Et on va pouvoir faire de nouvelles découvertes dans cette direction-là et qui ne soient pas, on l'a compris aussi dans ce que vous dites, qui ne soient pas non plus, comment dire, idéologisées, qui acceptent cette espèce d'ouverture et remélange constant des populations.
L'analyse de l'évolution humaine, elle baigne dans l'idéologie depuis le début, et d'ailleurs elle continue à baigner dans l'idéologie. Il ne faut pas croire qu'on est dégagé de tout a priori. Le 19e siècle ou le début du 20e siècle, c'était une époque où les gens avaient une certaine vision de l'homme et de sa place dans la nature, et aujourd'hui on en a une qui est très différente, mais ça biaise tout autant aujourd'hui la construction de nos modèles que ça les biaisait au 19e siècle, mais ça les biaise dans un autre sens. Alors maintenant, il y a un processus un petit peu, j'allais dire, darwinien en science, c'est que, bon, quand on dit des bêtises ou quand on se trompe dans l'interprétation de quelque chose, eh bien, à la longue, il y a des faits nouveaux, des découvertes qui viennent, dans le fond, démentir ce que l'on raconte. Pour en revenir aux Denisoviens, ce qui est frappant, c'est que ces Denisoviens, ils ont été décrits dans l'Altaï, donc on est quand même assez haut en latitude, au sud de la Sibérie. On soupçonne qu'ils ont eu une extension beaucoup plus grande que ça en Asie, puisqu'on trouve de l'ADN de Denisoviens chez les aborigènes australiens actuels ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc on soupçonne que ces Denisoviens ont été présents dans le sud de l'Asie. Mais voilà, justement, dans le sud-est de l'Asie, pour l'instant,
pas d'ADN.
On n'a pas beaucoup de fossiles. Il faut aller sur le terrain, trouver des fossiles. Et d'ailleurs, on va certainement se rendre compte, quand on va les avoir, que ce qu'on met dans la boîte, entre guillemets, des Denisoviennes, c'est quelque chose qui est beaucoup plus varié que le suggère l'utilisation de ce terme, c'est-à-dire que déjà les paléogénéticiens ou les gens qui font de la génétique des populations nous disent, voilà, il y a probablement plusieurs branches qui se sont séparées il y a très longtemps, et donc peut-être que par exemple ces Denisoviens du Sud, qu'on va, je l'espère, trouver un jour, eh bien, sont assez différents de ceux du Nord, peut-être aussi différents de ceux du Nord que ceux-là sont sont différents des hommes de Néandertal en Europe.
Allez, on va s'arrêter.
Beaucoup de travail sur la planche.
On va s'arrêter pour souffler un peu autour de tout ce travail sur la planche, autour de la question de quelle nouvelle de la préhistoire et comment la redécouvrir à partir de l'ADN ancien, mais aussi d'une autre, hein, qui a gardé la trace de nos ancêtres, de tous nos ancêtres. On s'arrête en Europe, là où on est, du côté de Néandertal, mais en version originale polonaise sur RFI, avec Jorda, groupe de rap polonais qui se la joue néandertalzique.
Autour de la question sur RFI.
Mi to kurwa nie kuma puenty. Chujowo wybieraj jak mieszko pierwszy. Tanie loty, tani bestyk. Tanie piwo, lubisz perły, pieprzysz. Widzę po oczach i mordzie. Którą nogą wstałeś, podnieść pościel. Umyj mordę, fit jest w modzie. Czemu wróciłeś do łóżka, Boże? Gdzie masz plecak, milordzie? Się nie krępuj, a odzień spodnie. Będziesz żył dobrze, a co ja teraz robię? Nie łapnie za słowa, bo jebnę, a mogę. We nie widzi to dobrze, ale mi wytłumacz, co to jest, a hostel. Pozbierałeś już drobne i wszystkie kipy z ulicy. Gdzie są twoje pieniądze? Gdzie są twoje pieniądze? Gdzie są twoje pieniądze? Gdzie są twoje pieniądze? Wracamy do domu, daj mi spokój i hajsy. To jest pora, by usiąść, a ja zaczynam tańczyć. Neandertalczyk. Wracamy do domu, daj mi spokój i hajsy. To jest pora, by usiąść, a ja zaczynam tańczyć. Neandertalczyk. Wracamy do domu, daj mi spokój i hajsy. To jest pora, by usiąść, a ja zaczynam tańczyć. Neandertalczyk. Wracamy do domu, daj mi spokój i hajsy. To jest pora, by usiąść, a ja zaczynam tańczyć. Neandertalczyk.
Neandertalczyk. Neandertalczyk. Neandertalczyk. Neandertalczyk.
Néandertal, en version originale polonaise sur RFI, autour de la question comment l'ADN ancien en particulier nous révèle une autre préhistoire toujours plus buissonnante et métissée. Nous sommes en compagnie de la paléogénéticienne Eva Maria Gegel qui retrouve dans notre ADN des traces des migrations passées et du paléoanthropologue Jean-Jacques Hublin qui a retrouvé lui des traces bien plus anciennes, hein. On est dans une autre échelle de temps qu'on ne le croyait, des premiers Homo sapiens en Bulgarie, de quoi bouleverser et surtout enrichir encore notre arbre généalogique. Un de nos auditeurs, Jean-Jacques Hublin, sur les réseaux sociaux à Niamey, au Niger, vous demande, ou nous charge de vous demander, quelle était la taille de ces premiers Homo sapiens ? Est-ce qu'on peut en avoir une idée ?
Alors on en a une idée assez précise, en tout cas pour certaines périodes, parce qu'on a des squelettes assez complets. Alors la taille, ça varie beaucoup hein, chez l'homme, et ça varie avec la géographie, ça varie aussi avec les conditions de vie. Et on le sait, dans les populations européennes modernes, en un siècle ou deux, la taille a changé considérablement. Alors quand on remonte dans le temps, au temps de ces chasseurs-cueilleurs qui arrivent en Europe il y a 45 000 ans, eh bien, ce sont des gens qui sont d'assez grande taille, en tout cas nettement plus grands que ces fermiers néolithiques dont parlait Maria Eva tout à l'heure. En fait, ce qui est assez intéressant de considérer, c'est que, dans le fond, l'agriculture, ça représentait un progrès en termes de démographique surtout, mais en termes de conditions sanitaires des populations, de qualité de l'alimentation, manifestement les chasseurs-cueilleurs, sont mieux placés, hein, ils se portaient mieux, et donc avec le néolithique on voit une diminution de taille, on voit même une réduction de la taille du cerveau en fait, hein, dans les populations européenne. Ah ouais. Donc c'est un peu une dégradation. Puisque votre auditeur appelle de Niamey, il y a un point, je pense, qu'il est intéressant d'évoquer aussi, c'est que on a longtemps pensé que l'éclaircissement de la peau des Européens, c'était quelque chose de très ancien, hein, lié justement à l'arrivée de populations d'origine africaine dans les latitudes où il y a moins d'ultraviolets, et donc des problèmes avec la synthèse de la vitamine D. On s'est rendu compte, grâce à la paléogénétique notamment, qu'en fait, jusque à la veille du néolithique, au mésolithique, donc il y a 8000 ans, 9000 ans, eh bien, on a encore en Europe des gens à peau sombre. Et pourquoi ils conservent cette peau sombre? Eh bien, parce que justement, ils ont une alimentation qui est probablement suffisamment variée et riche en nutriments, qui fait que, eh bien, elle compense finalement ce manque d'ultraviolet. Et c'est avec le passage dans le néolithique que probablement de l'agriculture, une nourriture qui est basée. Bah voilà, on mange beaucoup d'hydrates de carbone, de céréales, de choses comme ça, et on mange plus du foie de renne. Eh bien, on a ce changement, ces changements dans l'apparence des hommes. Ça, c'est assez remarquable.
C'est passionnant. Et ce qui est passionnant aussi dans cette histoire, c'est qu'elle est absolument pas linéaire. Eva Maria Gegel, c'est jamais linéaire. C'est buissonnant, c'est foisonnant. Il y a des allers et retours. On parlait là de ces Homo sapiens, première sortie, deuxième sortie d'Afrique, peut-être des retours. C'est constamment des allers et retours. Et c'est pas une évolution linéaire du moins vers le plus ou pas du tout, du tout, du tout.
Bah, l'évolution n'est pas linéaire.
Et ben voilà,
l'évolution n'a pas un but.
C'est ça, rappelons-le absolument. J'ai envie d'en venir aussi aux questions des disparitions ou des comment dire assimilations de certaines populations dans l'autre. Alors on n'arrête pas dans cette émission de faire des grands écarts monstrueux dans des échelles de temps monstrueuses, hein, des Denisoviens, des Néandertals, des sorties d'Afrique. Vous avez Eva Maria Gegel travaillé sur l'ADN ancien des différentes vagues migratoires en Europe et notamment en France, avec, on en revient donc à cette époque du néolithique, avec cette histoire évolutive de l'homme qui fait que les agriculteurs venus d'Anatolie, qui sont arrivés en Europe, qui ont plus ou moins remplacé les chasseurs-cueilleurs du mésolithique, ils se sont, comment dire, puisque on retrouve dans nos génomes encore leurs traces, ils se sont mélangés. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Comment est-ce que vous envisagez ça?
Bah déjà, je serais un peu plus prudente rapport, par exemple, à la taille de ces populations. Est-ce que ça, c'est vraiment un signe de dégradation des conditions de vie? C'est quand même d'autres populations. Je peux pas dire maintenant comment les agriculteurs anatoliens se sont comparés avec les chasseurs-cueilleurs de, je sais pas, Anatolie et de croissants fertiles d'Iran. Est-ce qu'ils étaient vraiment beaucoup plus grands? Je sais pas. Hein, donc je suis pas morphologiste, je sais pas. Mais il faut quand même garder en tête que c'est une autre population qui est arrivée avec toute la technologie et, comme on dit, ce Neolithic package, donc tout ce bagage néolithique, parce que c'est quand même toute une culture avec les animaux et les plantes domestiquées, leur céramique et tout ça, ils sont arrivés en Europe par deux routes de migration, la route continentale par le Balkan en arrivant dans le bassin carpétien et pour à partir de la Hongrie, disons, ils sont partis vers l'ouest en passant par l'Autriche et l'Allemagne pour arriver dans le bassin parisien. Et l'autre cours de route de migration, c'était la Méditerranée. Donc, probablement le long des côtes, ils sont arrivés sur la péninsule ibérique et dans le sud de la France. Et là, ils ont d'abord, c'était quand même pas quelque chose qui s'est fait en quelques jours. Hein. C'était
oui,
quand même
ça.
Des migrations. Ça, bon, ça a pris 1000 ans. Hein,
ouais, pour... Plusieurs générations,
oui,
en fait. Hein,
c'était
bien sûr.
Toujours les jeunes, probablement, qui ont quitté le groupe, qui sont allés plus loin pour fonder un autre village. Et donc, c'était un peu plus rapide dans la Méditerranée parce qu'ils se sont déplacés en bateau. Mais ça a quand même pris du temps. Et... sur leur chemin déjà, ils ont rencontré des chasseurs-cueilleurs mésolithiques. Et là, il y avait déjà les premiers métissages. Et ces métissages ont continué. Donc, on voit la fréquence et l'apport génomique augmenter au cours du néolithique. Donc là, il y avait un rapport et d'une certaine manière, ces chasseurs-cueilleurs n'ont pas disparu.
C'est ça, ça s'est mélangé. Ils ont adopté assimilés, d'autres cultures néolithiques. Ils ont adopté peut-être l'élevage. Il y a vraiment eu, quand on dit mélange,
je ne sais pas s'ils ont adopté, mais d'une certaine manière, ils se sont assimilés les populations. Hein, donc, c'était... comment ça s'est fait? Ça, c'est quelque chose qu'on veut maintenant regarder. On peut le regarder en analysant plus d'individus d'un site archéologique et analyser encore des génomes plus en profondeur, donc encore avoir plus d'informations génomiques, et là, et croiser ça avec les données archéologiques, et là, on va arriver à vraiment déceler le fonctionnement de ces sociétés, et aussi comment ça s'est passé, cette rencontre avec les chasseurs-cueilleurs mésolithiques.
Jean-Jacques Hublin.
Oui, je pense qu'il y a un mot qu'on n'a pas prononcé et qui est très important, c'est la démographie.
Hein. Bien sûr.
C'est-à-dire que le passage à une économie de production, à l'agriculture, en fait, ça se traduit par surtout un bouleversement démographique. On sait qu'il y a une explosion de la fécondité féminine au passage à l'agriculture. Et donc, quand on s'éloigne un peu, qu'on recule un peu et qu'on regarde pas seulement la France, mais disons l'ouest de l'Eurasie, en fait, ce qu'on observe, c'est des situations qui sont assez contrastées en Europe de l'Est, dans la partie orientale du bassin danubien, dans les Balkans. On a vraiment l'impression que ce sont des colons qui arrivent d'Asie mineure et qui s'installent. Et encore une fois, ils ont une démographie assez forte, en tout cas comparée à celle des chasseurs-cueilleurs. Et là, il y a une forme de remplacement, si je peux dire. Plus on va vers l'ouest et plus on voit que la contribution des chasseurs-cueilleurs locaux, elle est importante, et ça c'est montré aussi bien par la paléogénétique que par l'archéologie. Et quand on arrive en Scandinavie, eh bien là on a en fait beaucoup plus des chasseurs-cueilleurs qui changent de mode de vie, qui adoptent des nouvelles techniques, une nouvelle économie, que vraiment un remplacement de population. Donc on a un peu tout ça qui est en jeu et qui aboutit à la situation actuelle qui est assez, qui du point de vue de l'histoire génétique des populations en Europe est assez complexe. Avec Maria Eva, on a parlé des situations très différentes entre, disons, l'Espagne, qui est un petit peu le bout du cul-de-sac, et puis les Balkans.
Et on va quitter maintenant cette période du néolithique pour remonter le temps, mais un peu plus vers nous, allez, avant de découvrir qui étaient vraiment les Yamnayas et autres cavaliers venus des steppes. Je propose un chant des steppes, mais c'est pas la steppe des Yamnayas, hein, c'est la steppe mongole. Je propose d'écouter les violons barbares sur RFI avec Dadarvanchik Enkarjargal au chant et au morin kor. Les violons barbares sur RFI, chant diphonique des steppes mongoles pour nous entraîner non pas sur les steppes mongoles mais sur d'autres steppes, les steppes ukrainiennes, d'où viendraient les Yamnaya. Nous sommes en compagnie du professeur de paléoanthropologie Jean-Jacques Hublin et de la paléogénéticienne Eva Maria Gegel. Alors Eva Maria Gegel, dites-nous, dites-nous-en un peu plus sur ces Yamnaya, sur ces cavalier venu des steppes de l'Ukraine jusqu'en Europe, jusqu'en France, il y a quoi ? Il y a quelques 4000 ans et dont on retrouve les traces dans le génome des hommes européens et des hommes français aujourd'hui.
Absolument, donc ils sont arrivés avec l'âge du bronze. On ne sait pas encore exactement s'ils ont amené l'âge de bronze, parce qu'en Allemagne, ça a donné suite à une autre culture, la culture de céramique cordée. Donc, ils sont arrivés avec leur culture.
Leurs chevaux, leurs épées.
Oui, c'est imaginable. Bien que j'ai entendu les archéologues, ils trouvent pas ces traces de chevaux dans les sites de l'âge de bronze en France. Donc, je sais pas comment ça s'est passé en France. On sait pas encore. En tout cas, ils sont arrivés. Et il y avait au début un biais dans la démographie. C'était probablement des hommes qui sont arrivés. Et qui ont donc, dû se métisser avec les femmes néolithiques.
De quelle manière, on ne sait pas trop. Un degré ou de force, hein, voilà.
Bien, ça, on ne sait pas. On saura probablement...
Jamais.
Bon, peut-être, parfois, on trouve des traces dans les sites archéologiques d'une violence, une grande violence, surtout des sites de massacres sont connus depuis le néolithique, donc des grands massacres. Donc ça, c'est connu, mais pour l'instant, on ne sait pas. C'était de toute façon une surprise de voir ce remplacement du génome par les cavaliers des steppes dans les génomes de ces populations qui appartenaient donc à la culture de la céramique cordée en Allemagne. Et on voit la même chose en France. Et ça a surtout ce biais, on le voit au niveau du génome, mais aussi surtout au niveau du chromosome Y. Et ça, c'est frappant.
Donc, le chromosome Y, donc c'est partie du génome.
C'est le chromosome que uniquement les hommes ont. Donc, il y a, c'est un petit chromosome qui fait que les hommes sont des hommes et qui est donc pas présent chez les femmes. Les femmes ont deux chromosomes X. Donc, qui sont des très grands chromosomes. Et donc, les chromosomes Y ont changé à cette époque leur haplotype, leur haplogroupe. C'est-à-dire, ils sont tous des haplotypes, des chromosomes Y qui sont devenus de ces cavaliers des steppes.
Et que nous avons toujours, européens ont toujours.
Pas tous, hein, mais c'est toujours une grande partie de la population masculine européenne actuelle qui porte cette signature. Et c'était quand même frappant dans tous les squelettes qu'on a analysés, mais là je reviens à ce que j'ai dit au début, les squelettes analysés. Donc les squelettes qu'on a eus dans des sites archéologiques, dans des
bien
cimetières, qui ont donné, mais exclusivement, ce chromosome Y des steppes. Donc c'était quand même quelque chose, comme j'ai dit au début, hein, ces hommes des steppes se sont imposés au niveau de la reproduction au moins.
Autour de cette question, hein, de ces hommes des steppes et de l'évolution humaine que l'on peut relire à la lumière de la paléogénétique, nouvelle question pour vous, Eva Maria, soulevée par mon confrère de Science et Vie, Thomas Cavaillé-Foll.
Donc on voit qu'il y a eu deux migrations très importantes dans l'Europe, effectivement, il y a plusieurs milliers d'années. Je me demandais, face à ces migrations, des Yan Laya par exemple et celle auparavant, est-ce qu'il nous reste quelque chose génétiquement parlant de l'homme de Cro-Magnon?
Que pouvez-vous répondre à cette question de Thomas Cavaillé-Foll, Eva
Maria? D'abord, on n'a pas l'ADN de l'homme de Cro-Magnon,
donc
pour l'instant on ne connaît pas son génome. Mais qui était l'homme de Cro-Magnon? C'était un sapiens qui est arrivé en France avec une des vagues, je dirais, des vagues des sapiens qui ont quitté l'Afrique et qui ont colonisé l'Europe et qui est arrivé jusqu'en France. Il n'est pas si vieux, hein, puis si ancien. C'est tout à fait une période où on pourrait aussi trouver l'ADN. Donc, pour l'instant, on n'a pas. Donc, c'est clairement un ancêtre à nous tous. C'est pas exactement, on n'est pas descendu exactement de cet ancêtre-là sans avoir subi ou expérimenté d'autres métissages. Hein. Donc les autres métissages qui sont arrivés
Et là, il y avait, par exemple, aussi déjà après la dernière glaciation, sont arrivés des peuples du sud-est de l'Europe qui étaient ces chasseurs-cueilleurs mésolithiques après. Donc, il y avait d'autres vagues, et la vague néolithique et la vague de l'âge de bronze qui ont constitué, remodelé, remanié le génome. Et aujourd'hui, on est sur tous les résultats de tous ces métissages, remaniements de génomiques. Et donc, le dernier grand remaniement, c'est à l'âge de bronze. Et toutes ces migrations qu'on connaît, des documents historiques, soit des Romains, soit des invasions barbares et autres, c'était à l'intérieur de cette population caractérisée par ce génome constitué à l'âge de bronze.
Qu'est-ce que ça vous apprend? Je poserai la même question à Jean-Jacques Hublin. Qu'est-ce que ça vous apprend, Eva-Marie Gegel, ce travail donc de paléogénétique sur nos origines humaines, le fait que nous transportons tous un tas de gènes qui nous viennent de plein d'ancêtres différents. On dit métissage, c'est un mot facile. On peut dire migration. Qu'est-ce que ça vous apprend de découvrir une humanité aussi aussi complexe et aussi métissée? J'aime bien ce mot-là quand même.
Ça me surprend pas du tout. C'est notre histoire. Notre histoire, c'est une histoire de métissage, de migration, une histoire qui a commencé en Afrique. Donc oui, moi je dirais, on est tous d'une certaine manière, tous des Africains, tous des métis et tous des migrants.
Est-ce que ça vous va, ça, Jean-Jacques Hublin, comme définition? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez voulu dire? On arrive à la fin de cette émission, hein, mais autour
Non, je voudrais revenir sur l'homme de Cro-Magnon, parce que, en fait, bon, la dénomination homme de Cro-Magnon, c'est un peu désuet. Hein.
Bien sûr.
Disons, les hommes du Paléolithique supérieur qui vivaient en Europe il y a, 30 000 ans, 25 000 ans. Donc voilà, on a à peu près un quart de notre ADN qui vient de ces gens-là, en gros, à la louche. Hein. Et puis après, il y a toutes les couches dont Maria Eva a parlé, qui sont rajoutées à celles-là. Et encore une fois, c'est intéressant de voir que les toutes premières vagues, elles, n'ont pas laissé de traces dans les populations actuelles.
Les toutes premières vagues, les toutes premières sorties d'Afrique, les toutes premiers retours aussi, probablement. Enfin, toutes ces vagues-là, c'est ça?
La paléogénétique, enfin, quand on regarde historiquement depuis le début des années 2000, d'abord, c'est beaucoup intéressé à des questions de phylogénie, hein, savoir, est-ce que les Néandertaliens sont nos ancêtres ou pas, des choses comme ça. Puis quand même ensuite, on s'est rendu compte que il y avait d'autres sujets. Alors, il y a le sujet de l'hybridation, qui est un sujet peut-être qu'on a un peu surjoué quand même, hein. C'est-à-dire que quand on dit qu'on s'est hybridé avec l'homme de Néandertal, on a, vous et moi, à peu près 2% d'ADN néandertalien. Maintenant, dans ces 2% d'ADN, combien de cet ADN code des caractères réellement importants, c'est peut-être pas beaucoup, en fait. Hein.
On n'en sait rien, mais on sait juste qu'on est quand même un peu néandertalien, ou un peu dénisovien, ou un peu beaucoup de choses. Merci, en tout cas, parce que on ne peut pas faire le tour de la question. Merci beaucoup à vous deux. Hein. Merci Eva-Maria Gegel d'avoir été en studio en direct avec nous. Merci Jean-Jacques Hublin d'avoir été en lien par téléphone. Et bien sûr, vous revenez tous les deux quand vous voulez pour d'autres nouvelles de notre préhistoire. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain, si vous le voulez bien, chers amis auditeurs et auditrices. Vous pouvez en attendant, bien sûr, nous podcaster à volonté sur vos applications favorites. Avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au métro, nous vous entraînerons sur la planète Mars. Carrément, avec l'astrophysicien Francis Rocard. Autour de la question, pourquoi vouloir à tout prix y aller sur Mars? Tiens donc, rendez-vous lundi pour nous interroger ensemble. Merci de votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles à l'écoute de RFI. C'est bientôt l'heure du prochain journal.